Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? Je pense que c'est d'abord l'idée qu'on peut faire les choses ensemble. C'est l'autre qui me fait marcher dans la vie. L'autre avec l'envie de construire avec lui, même si parfois on chamaille, même si parfois on s'engueule, c'est l'envie de construire ensemble. C'est l'autre.
Moi, c'est l'injustice et c'est les coups qu'on prend depuis des siècles.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue et sous la pluie Laurence Karznia et Mourad Lafitte, réalisateurs de films documentaires dont Une jeunesse parisienne en résistance et liquidation, produit et distribué par Images Contemporaines.
Dès qu'on est gamin, on ressent très vite cette notion d'injustice. Quand on élève ses enfants, on s'en rend compte, mais on a aussi nous-mêmes vécu, ressenti cette injustice, et c'est ce moment où, quand on grandit un petit peu, on prend conscience qu'il y a des choses qu'on peut mener autrement pour éviter l'injustice, qui fait qu'effectivement, on se lance. Alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut être d'abord, quand on est môme dans la classe avec les copains, s'engager, et puis ensuite, comme nous, faire du syndicalisme, militer pour un certain nombre de causes, et puis jusqu'au moment où on se dit, tout ça, on pourrait le faire autrement, par exemple en faisant des documentaires.
Marcher, c'est avancer. Marcher, c'est construire. Avancer, c'est aussi être progressiste. Et le constat, c'est qu'effectivement, si marcher, c'est avancer, il y a plein de lacunes, il y a plein de choses qui ne vont pas. Effectivement, on avance, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je crois que c'est une des raisons.
Et pourquoi choisir la voie du documentaire?
Le souci, c'est qu'il y a énormément de livres et de très bons livres qui sortent, c'est noyé. Et l'avantage du documentaire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, en fin de compte. Et le documentaire permet d'avoir une prise directe avec la réalité, avec le public, pouvoir avoir des débats, et ça, c'est quelque chose d'important.
C'est vrai que d'une manière générale, ce qui a pu nous amener sur les sujets qu'on a traités déjà dans des documentaires, forcément, c'est de parler de ces questions-là. Donc, parler des luttes sociales, parler des sans-papiers, parler de la résistance avec cette idée que les anciens, il y a 75 ans, nous ont transmis un certain nombre de choses et qu'aujourd'hui, ces choses-là, on les voit se détricoter, on les détruit. Donc voilà, d'une manière générale, ce qui nous pousse, c'est forcément des sujets qui nous touchent, nous, et plus particulièrement pour une jeunesse parisienne en résistance. On avait déjà fait un premier documentaire qui s'appelle « FTP et Moï dans la résistance ». Parce qu'on avait réagi violemment à deux choses à l'époque. Le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, et puis cette déclaration de Nick Hessler qui voulait, en 2009, qu'on en finisse avec le programme du Conseil national de la résistance. Donc c'est ça qui nous avait poussé à faire le premier. Et dans le premier, on évoquait les FTP... d'une manière générale, c'est-à-dire pas tous les réseaux, mais de nombreux réseaux partout en France. Et celui-là, on avait envie à la fois de revenir plus précisément sur la résistance parisienne à travers une figure emblématique dont jamais personne n'avait parlé, en tout cas sous forme de documentaire, la figure d'André Krasiuki.
Oh, puis on a aussi nos histoires familiales. Moi, j'ai un oncle qui était un progressiste, un anticolonialiste, qui a été assassiné en octobre 61, ce qui m'a incité dans les années 80... à m'intéresser de près à Papon et par déclinaison donc à la résistance. Ça s'est resté un peu enfoui dans ma mémoire. Et 30 années plus tard, quand on a commencé à travailler avec Laurence sur les questions de la résistance, pour moi c'était logique. Il y avait cette logique, il y avait des rencontres. René Vautier, il y a une trentaine d'années, Henri Allègue, tous ces militants progressistes, anticolonialistes, je crois qu'ils forgent et puis qui ont fait des enfants, aujourd'hui leurs enfants quelque part.
Juste pour compléter, je dirais, il y a une chose qui pour nous est évidente, c'est que quand on parle des Goudieurs dans Liquidation, quand on parle de la jeunesse d'Henri Krasiuki dans Jeunesse parisienne en résistance, au fond, on parle de nous. Voilà, c'est évident.
Le combat des ouvriers en lutte, par exemple, le combat des Goudieurs, moi, j'y revois mon père, je suis fils d'ouvrier, donc j'ai pas oublié. Alors, on était aussi à une époque où on avait des parents ouvriers, et nos parents nous envoyaient à l'école, et c'était surtout le discours de la maman à l'époque, faites des études. Alors, c'est péjoratif. Elle était heureuse d'avoir un mari ouvrier, d'ailleurs, qui a pris sa retraite dans la plus grande dignité. Cela étant dit, nos parents n'ont pas voulu qu'on ait des métiers aussi pénibles que nos parents. Et moi, quelque part, c'est un hommage, liquidation, c'est un hommage à la classe ouvrière dont on n'a pas rougi. Elle revient malheureusement aujourd'hui sur le devant de la scène par le biais d'horreurs que sont les fermetures d'usines, tout ça. Mais c'est une classe qui est digne. Des mineurs de courrières en passant par les mineurs grévistes de 48, ceux de Renault en 68, ArcelorMittal plus récemment et Goodyear aujourd'hui.
Jeunesse du film, une jeunesse parisienne en résistance.
Laurence rappelait tout à l'heure, précédemment on a fait un film qui s'appelait Les FTP MOI dans la résistance, et on évoquait de manière très partielle Henri Krasucki. Robert Guédiguian, qui a fait ce film qui est magnifique, qui est une fiction, mais qui a le mérite d'exister en tant que fiction, L'armée du crime, qui permet par la suite aux gens d'aller faire des recherches sur le groupe Manouchian. Il évoque lui aussi Henri Krasucki. Alors c'est très très court, mais cela étant dit, on s'est toujours dit avec Laurence, il serait intéressant qu'on retourne, qu'on fasse un travail vraiment, et personne n'avait jamais fait. Il n'y a pas un film actuellement sur Henri Krasucki, c'est le seul documentaire qui a été réalisé, et je crois qu'il doit y avoir un livre, c'est le livre de Christian Langeois. Il y a un livre et un film, et donc c'est aussi la jeunesse. On s'était quelque part promis de revenir sur Henri Krasucki.
On peut quand même se l'avouer, c'est vrai aussi que parler d'Henri Krasucki, c'est une façon de rendre beaucoup plus visible le film, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, d'ailleurs beaucoup le connaissent dans la deuxième partie de sa vie. Mais en réalité, en effet, et si Henri Krasucki avait vu ce film et s'il nous avait entendu, il aurait dit « c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de tout un groupe, de tous mes camarades, de ce mouvement depuis l'arrivée de l'étranger, donc de Pologne, pour certains d'entre eux, d'ailleurs pour d'autres. Et ensuite, ce combat collectif et cette construction collective qu'ils ont dès le départ, avec cette conscience politique qu'ils vont voir naître dès leur enfance à travers les activités de la Bellevilloise, les colonies, tout ce qui est évoqué, puis ensuite la résistance. Mais effectivement, c'est une aventure collective. Mais la plupart des gens connaissent d'abord Henri Krasucki et découvrent ensuite à travers le film des personnages tels que Paulette Sarcey, qui est quand même une femme exceptionnelle, qui redécouvre Julien Lauprêtre, qu'on connaît d'abord comme le président du Secours Populaire, mais qui a aussi un parcours de résistant, et qui en découvre bien d'autres.
Parce que Henri Krasucki, il a trois vies. Il y a cette période qui est totalement méconnue de 1920, donc l'arrivée de ses parents en France jusqu'à la Libération. Il y a le Henri Krasucki qu'on connaît, le syndicaliste, et il y a également... Alors c'est sur la même période, mais le Henri Krasucki, le communiste, il est membre du Bureau National, le Comité Central, on disait à l'époque. Alors ça, on le connaît beaucoup plus, il y a énormément d'articles de presse, quand on fait des recherches, on le trouve assez facilement, mais c'était sur cette période-là, moi cette période-là nous intéressait, la résistance.
Je suis d'une famille d'ouvriers immigrés, j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, installés dans un quartier populaire de Paris, et eux-mêmes, connaissant la vie de l'exil, les conditions difficiles, vous savez, les histoires de papiers, de permis, de séjour et autres, oui, ou de naturalisation refusée. Ça me fait penser, quand je vois certains des phénomènes contemporains, je pense à ces expériences-là. Mes parents étaient des gens honnêtes, travailleurs, d'esprit avancé, progressiste, syndicaliste et communiste de conviction, attaché à la France.
Mes parents étaient d'origine polonaise, qui habitaient dans une ville de province dans la banlieue de Varsovie, à 90 km de Varsovie.
Le jour des grandes manifestations contre la montée du fascisme, mon père a dit à ma maman, il m'a dit, tiens, j'emmène le petit à la manifestation. Et la maman a dit, mais non, tu vas pas l'emmener, mais il va rien y avoir. Alors il n'y a pas eu grand-chose, mais ceci dit, je me suis retrouvé à un moment où il y a eu une bousculade, et j'ai pris le premier coup de fesseau derrière par un flic qui n'était pas sympa, vous voyez, dégagé. Et ça m'est resté quand même, vous voyez. J'en ai vu après avec la police française, mais enfin, En 1934, quand on a 8 ans, vous voyez, ça fait un drôle d'effet.
Ils ont ce site commun, et c'est quelque chose aussi qui, pour nous, est très important, parce que ça entre considérablement en résonance avec la période actuelle. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, ils sont étrangers, mais avec un souci, effectivement, de s'engager pour le pays qui les accueille. Et puis, ils sont tous issus de la classe ouvrière, avec une conscience politique forte. Et ils ont tous ça, et c'est ça qui était important. Et effectivement, c'est ça qu'on voulait montrer, raconter, avec l'idée toujours de, aujourd'hui, comment c'est perçu. Parce que quand on est dans une dimension, je dirais, juste historique, les étrangers, c'est formidable, les jeunes communistes, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, quel sens ça a pour nous et pour les contemporains d'aujourd'hui, quoi. C'est tout ça. Et effectivement, il y a une espèce d'unité. C'est une histoire déclinée à travers plusieurs personnes. Voilà. Cette jeunesse, elle se cultive. Alors à l'époque, évidemment, c'est le bouquin, c'est l'échange, c'est le théâtre, c'est la musique. Mais à travers cette culture progressiste, il faut être très clair, et bien petit à petit, ces jeunes aussi construisent leur conscience politique. Et c'est ce qui leur permet de s'émanciper très vite et de réagir aussi rapidement quand ils se trouvent en situation d'occupation, donc dès 40. Il ne faut pas oublier non plus que c'est des gamins qui vivent 36. Ils sont encore assez jeunes à ce moment-là. Mais le Front populaire, c'est aussi quelque chose d'important qui les cultive aussi énormément. Donc ça, c'est important. Et là aussi, c'est une réponse pour nous qui est importante quand on dit aujourd'hui, ouais, les jeunes, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont individualistes, ils ne s'intéressent à rien. C'est absolument faux. Et on en rencontre fréquemment. Ce film, il a été projeté très, très souvent dans des collèges ou des lycées. Et j'ai très sincèrement, les réactions des gamins sont magnifiques. Et quand on leur dit, bah, vous, peut-être que ce n'est pas le bouquin papier, pas tout de suite en tout cas, que vous allez aborder, mais ça peut être autre chose, ça peut être d'autres formes. Mais soyez curieux, interrogez-vous tout le temps, ne prenez pas les choses telles qu'elles vous viennent et réfléchissez, avancez, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils sont avides. Ils ont besoin qu'on leur donne les choses et après ils s'en emparent et on le voit en ce moment notamment, on l'a vu avec la loi El Khomri, les Nuits Debout, enfin les jeunes sont là, sont présents, ils sont pas du tout tels qu'on veut nous les décrire.
Mais on le ressent parce qu'on a rencontré nous une centaine de résistants et autres, bon, qui ont aujourd'hui entre 80 et 100 ans. Et quand on leur pose la question, alors des connus, par exemple Julien Lauprette, président du Secours Populaire, on tourne un film sur sa vie actuellement, donc un documentaire sur sa vie et la vie de son père, tous deux résistants. La genèse de leur engagement, bon, il a 90 ans, 91 ans, Julien.
90.
Voilà, il est aujourd'hui toujours président du Secours Populaire, au taquet, il est très réactif. Et quand on lui pose la question, c'est quand même un enfant qui a connu 34 les ligues, le Front Populaire, la Résistance, et ils sont marqués. Bon, il a partagé une cellule avec Missak Manouchian et les membres de la Fiche Rouge. Donc ça a déterminé par la suite. La Résistance a été le prolongement de son engagement, quelque part. Lui, Henri Krasuki, qui n'a jamais parlé, on a rencontré énormément de témoins, il ne parlait jamais de cette période. Dans les années 80, jusqu'à la fin de sa vie, il a commencé à en parler. Mais l'humanisme qu'il avait, elle vient quand même de toute cette période. Il a connu. Et tous les autres nous disent à chaque fois la même chose. On a connu 34, la montée des ligues, le fascisme. On n'imaginait pas que 2 ans après, ce serait le Front populaire. Et 3 ans après, un nuage qui arrive avec l'invasion nazie. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi d'aller chercher la genèse de l'engagement de tous ces militants, connus et moins connus.
Et puis c'est aussi montrer qu'on a dans cette espèce d'imaginaire collectif l'idée qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'est pas cultivé.
Nous accompagnons dans la rue Laurence Karsnia et Mourad Lafitte, les réalisateurs d'une jeunesse parisienne en résistance et liquidation, produit et distribué par Images Contemporaines.
Aussi montrer qu'on a dans cette espèce d'imaginaire collectif l'idée qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'est pas cultivé. Et nous n'avons rencontré que des gens qui étaient extrêmement cultivés. Et dans le précédent film, on nous raconte une histoire qui est totalement sidérante, mais c'est une parmi tant d'autres, c'est un témoignage parmi tant d'autres, d'un jeune qui a quand même 19 ans, qui vient d'être arrêté, qui a été torturé et qui va être exécuté, et qui écrit comme la plupart, comme beaucoup d'autres, sa dernière lettre. Et dans sa dernière lettre, il demande à sa sœur de prendre soin de ses livres. Et ça, avec les titres qui aujourd'hui sont tout à fait méconnus parce que c'est des gros pavés, Jean-Christophe de Romain Rolland, etc. Et c'est.
Un apprenti fourreur de 15 ans.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il lisait Romain Rolland.
Christophe riait de joie. Il ne pensait pas à la tourmente. Il pensait à l'autre tourmente dont il venait de sortir. Il regardait le ciel d'hiver, la ville enveloppée de neige, les gens qui passaient en luttant. Il regardait autour de lui, en lui. Rien ne le liait plus à rien. Il était seul, seul. Quel bonheur d'être seul, d'être à soi. Quel bonheur d'avoir échappé à ses chaînes, à la torture de ses souvenirs, à l'hallucination des figures aimées et détestées. Quel bonheur de vivre enfin, sans être la proie de la vie, d'être devenu son maître.
Au moment dont les premiers actes de résistance, donc notamment les tracts, ou les petites inscriptions sur les murs. Ce qui était important pour eux, c'est que dans ces tracts, il y avait des messages politiques. Ils étaient très jeunes, ils avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans pour la plupart d'entre eux. Et ces messages politiques leur permettaient de savoir où ils allaient et comment ils allaient y aller. Paulette Sarcel nous le dit, elle a 92 ans et une forme exceptionnelle. Après tout ce qu'elle a vécu, c'est fascinant. Et elle le rappelle tout le temps. Et ce qu'elle nous dit aussi aujourd'hui, en 2016, c'est qu'il est important de revenir à ces messages politiques pour permettre aux plus jeunes de savoir dans quelle direction aller, comment y aller, et puis comment réfléchir à tout ça. Parce que c'est effectivement, on parlait de la culture c'est quand même, on le dit souvent avec moi, c'est un outil d'instruction majeure. Voilà. Et c'est ça qui permet de réfléchir.
Quand Laurence disait ce qu'ils ont vécu, c'est juste pour ouvrir une parenthèse, ils ont connu donc la résistance et la clandestinité. Ils ont été arrêtés, ils sont passés entre les mains des brigades spéciales BS1 et BS2, enfin les BS2 entre autres. Ils ont été torturés, ils sont allés ensuite à Drancy. De Drancy, ils ont été envoyés sur des camps d'extermination, c'était pas des camps d'internement comme il y avait à Pithiviers ou Bonne-la-Romaine. De là, ils ont fait la marche de la mort, ils sont revenus. Et prenons le cas d'Henri Krasuki, par exemple, lui était affecté au travail de mineur dans les mines. Et il a demandé, parce qu'il voulait militer dans le camp, ils avaient créé une cellule communiste dans le camp, donc une cellule de résistants communistes. Dans le camp, il avait demandé à travailler. Alors c'est déjà dur, le travail de mineur dans un camp d'extermination. Il n'y a pas de comité d'entreprise, il n'y a pas de CHSCT, il n'y a rien du tout. Hein. Dirigé par des capots, et au-dessus, c'est les nazis. Il a demandé à travailler de nuit pour pouvoir militer le jour, hein, dans un camp. C'est quand même... Pour ça, quand Laurence disait tout à l'heure ce qu'ils ont vécu, il faut voir aussi ce qu'ils ont enduré dans un autre contexte, hein, bien entendu.
Quand on parle de résistance, on peut mettre plein d'aise, y compris à l'intérieur du camp.
Il y a cette organisation qui est incroyable. Ils éditent le premier numéro humain clandestin, La Libération, c'est Marcel Paul qui édite ce numéro. Ils ont édité des journaux dans les camps. D'ailleurs, on l'a retrouvé énormément, il y a énormément d'archives. On retrouve beaucoup d'archives. Les archives de l'humanité, on les a retrouvées. Mais ils ont fait énormément de dessins, il y a des photos, il y a des petits films des camps. Alors nous, on n'a pas eu accès naturellement à tout ça, mais à l'intérieur, il y avait de la culture aussi dans les camps. Il y avait ce volet culturel où ils chantaient, où ils faisaient des pièces de théâtre. Et je dis, dans un contexte bien particulier, qui était un camp d'extermination.
La notion de résistance au pluriel est importante, parce que là aussi, dans les représentations classiques que l'on a, et peut-être qu'on reviendra tout à l'heure au pourquoi on se représente la résistance de cette façon-là et pas d'une autre.
Vous pouvez répondre.
Mais oui, mais c'est aussi ce qui a motivé ce film et le précédent, c'est-à-dire que on voit à travers les médias du capital aujourd'hui, cette façon de gommer une partie de notre histoire. On l'a vu précisément en 2014 et 2015, qui étaient les deux années, les 70 ans. Alors les 70 ans du programme du Conseil de la Résistance, du débarquement, de la fin de la guerre, etc., etc. Et on voit comment ça a été traité.
Merci à Laurence Karznia et Mourad Lafitte, les réalisateurs d'Une jeunesse parisienne en résistance et Liquidation, produit et distribué par Images Contemporaines, pour leur libre participation à ce reportage.